France Inter.
Journal Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. David contre Goliath ou quand Emmaüs s'attaque au géant du e-commerce. La boutique en ligne solidaire d'Emmaüs sur le point de sombrer pour cause de concurrence déloyale. Elle le dénonce dans une campagne de sensibilisation. Mayotte, place nette ou Wambushu 2, une opération anti-immigration illégale et contre l'insécurité a débuté ce matin sur l'île française de l'océan Indien. Un ancien généraliste de Châteauroux, jugé par la cour criminelle, il est soupçonné d'un viol et d'atteinte sexuelle sur 24 de ses anciennes patientes. Une culture démocratique, mais une gestion autoritaire du pouvoir. Près d'un milliard d'électeurs appelés vendredi aux urnes en Inde. Le premier ministre indien Narendra Modi, bien parti pour un troisième mandat.
Et au micro de Sonia De Villers, aujourd'hui, le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard.
France Inter.
Comment concurrencer Amazon ou Chine quand on s'appelle Emmaüs? Et pourtant, la boutique solidaire, la belle Emmaüs, est-elle aussi sur Internet, mais face aux géants américains ou chinois du e-commerce, difficile, voire mission impossible de se faire une place. Pire, la boutique en ligne de l'Abbé Pierre a vu ses ventes chuter de 20% en un an et menace même de disparaître. Pourtant, comme les gros sites en ligne, elle vend toutes sortes d'articles d'occasion, des vêtements à l'électroménager, d'où cette campagne de sensibilisation lancée pour dénoncer la concurrence déloyale du secteur. Explication Julien Penaud.
Tous nos livres se valent, c'est le slogan de cette campagne d'Emmaüs où deux biographies sont placées côte à côte, celle de l'abbé Pierre et celle de Jeff Bezos, le PDG d'Amazon.
Une dualité extrême, Jeff Bezos et l'abbé Pierre, qui incarnent deux modèles de société aux antipodes.
Maud Sarda, la directrice générale de Label Emmaüs.
L'enrichissement personnel poussé à son extrême et qu'à travers Amazon, c'est peut-être plus largement aussi les pratiques commerciales ultra agressive, déloyale, des géants du e-commerce. Temu a dépensé en 2023 2 milliards de dollars uniquement en publicité sur les plateformes de Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp.
Difficile dans ces conditions de se faire une place sur le marché de l'occasion, Emmaüs demande des mesures pour rééquilibrer ce rapport de force.
La TVA, est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, la belle Emmaüs paye le même niveau de TVA qu'un Amazon ? Est-ce que le niveau de charge sociale ne devrait pas être différent ?
Ou encore une limitation des nouvelles références mises en vente, 8000 le sont chaque jour sur le site chinois de prêt-à-porter Shein.
Julien Penaud, ajoutons que cette campagne réalisée gratuitement par l'agence Havas va s'étaler jusqu'à fin avril. Elle sera visible uniquement sur les réseaux sociaux. Un Français héros en Australie, Damien Guéraud, c'est cet homme qui samedi a repoussé à l'aide d'un poteau l'assaillant qui a mortellement poignardé 6 personnes dans un centre commercial de Sydney. Alors pour le remercier de cet acte de bravoure, ce Français se verra offrir la citoyenneté australienne.
Il est 7h33, opération Wambushu 2, ce matin à Mayotte.
Un an après le début de la première opération policière, l'objectif affiché par l'exécutif reste identique, lutter contre l'immigration illégale, le logement insalubre et l'insécurité. Car si selon le ministère de l'Intérieur, les violences ont baissé de 10% ces derniers mois sur l'île, ce n'est pas l'avis des élus et des habitants pour lesquels le déchaînement de violence est inédit à cause des gangs, notamment. Estelle Youssoufa, députée du groupe Lyotte de Mayotte, était ce matin l'invitée de nos confrères de France Info.
On voit depuis plusieurs jours les violences qui reprennent. Par exemple, dans Kungu, qui est au nord de la capitale administrative, où il y a énormément de bidonvilles, on voit des attaques qui sont opérées contre les bus scolaires, contre les établissements scolaires. Par exemple, des barrages qui ont été montés. Donc il faut comprendre que ces opérations menées par les forces de l'ordre font en fait face à une énorme violence des bandes qui protègent entre guillemets les populations qui sont installées illégalement, souvent des migrants qui se sont organisés et c'est des zones de non-droit.
Estelle Youssoufa, députée du groupe Lyotte de Mayotte. Un viol, des attouchements et des vidéos prises à leur insu. Un procès un peu hors norme a débuté hier à Châteauroux devant la cour criminelle de l'Indre. Sur le banc des accusés, un ancien médecin généraliste et face à lui, ses victimes. 24 sont citées pour des faits qui se sont déroulés au cours de consultations sur plusieurs années, entre 2013 et 2020. Un procès éprouvant à huis clos pour préserver certaines victimes, fragiles ou vulnérables. Manon Klein de France Bleu Berry.
Le procès a démarré dans une salle quasiment remplie. Il a d'ailleurs fallu rajouter des tables en dernière minute pour les avocats des victimes. Plus d'une dizaine d'anciennes patientes sont là, accompagnées ou représentées parfois par leur curatrice ou leur tutrice. C'est l'un des faits aggravants dans ce dossier. Une bonne partie des victimes se trouvaient en situation de fragilité. Venir au tribunal pour certaines, c'est une épreuve, mais elles sont pourtant bien là, avec parfois un peu d'appréhension, de l'émotion, quelques larmes. Ça fait plusieurs années pour certaines qu'elles attendent ce procès. Le médecin a été démasqué en 2020 déjà. Son procès se déroule à l'abri des regards, à huis clos partiel. Seuls certains conjoints et l'association d'aide aux victimes peuvent rester. De nombreuses victimes ont réclamé cette mesure, notamment parce qu'il est prévu que les vidéos tournées par le médecin sur son téléphone portable soient visionnées. Il a filmé le viol qui lui est reproché, mais pas que, certains attouchements aussi. D'autres fois, il ne faisait entre guillemets que filmer en orientant la caméra vers le sexe de ses patientes. Le sexagénaire qui a reconnu au moins une partie des faits aura toute la semaine pour s'expliquer.
Verdict attendu vendredi, l'ancien médecin encourt jusqu'à 20 ans de prison pour le viol aggravé. La politique ou quand le Rassemblement National s'attaque au logement social, il veut peser dans le débat sur la loi SRU. Le parti d'extrême droite souhaite revenir sur la règle qui impose à un certain nombre de communes de posséder 25% de logements sociaux sur leur territoire à l'horizon 2025, sous peine de pénalité. Le député RN des Bouches-du-Rhône, Franck Alizio, présentera aujourd'hui une proposition de loi. Il entend ainsi griller la politesse au gouvernement qui a prévu sa propre refonte de la loi. Mathilde Ansker.
C'est Franck Alizio, le député RN des Bouches-du-Rhône, qui porte le dossier. Pour lui, la loi SRU doit être révisée.
Cette loi est intenable. Vous avez une majorité de communes qui ne la respectent pas, ce qui donne une explosion des pénalités. Ça se transforme très vite en impôt déguisé, puisque c'est au final le contribuable qui finira par payer ces pénalités qui explosent. Des communes qui sont, par exemple chez moi en Provence, coincées entre la Pinède et la mer, elles ne peuvent plus construire. C'est pas qu'elles ne veulent pas, c'est qu'elles ne peuvent pas.
Il propose donc d'assouplir la règle, fini les quotas et les pénalités pour les communes ayant entre 3500 et 75 000 habitants. En revanche, s'il y a nouvelle construction, elles devront compter 25% de logements sociaux. Ça ne passe pas pour le député PS Arthur Delaporte.
C'est une attaque frontale contre la mixité sociale et l'accès à un logement abordable pour toutes et tous. C'est une politique d'exclusion, d'éviction. Et aujourd'hui, on voit très bien que c'est dans des communes qui sont extrêmement favorisées, notamment du Sud-Est, qu'on a des concentrations de riches et qu'on évince les pauvres.
L'idée ne plaît pas davantage à la majorité. On fait table rase du passé, s'agace un député Renaissance. Alors que le gouvernement compte lui aussi modifier la loi SRU, qui est une épine dans le pied de beaucoup de maires. En déposant cette proposition de loi, le RN entend donc leur parler à 2 ans des municipales.
Et dans cette proposition du RN, les règles actuelles continueraient à s'appliquer pour les communes de plus de 75 000 habitants. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour protéger l'État d'Israël et nous le ferons à l'occasion et au moment que nous choisirons. Le chef d'état-major de l'armée israélienne promet une riposte à l'attaque massive et sans précédent lancée samedi par l'Iran. Le cabinet de guerre israélien s'est de nouveau réuni hier soir, mais le premier ministre Netanyahou, sous très forte pression, est resté silencieux sur la forme que pourrait prendre d'éventuelles représailles. Un Premier ministre suspendu au choix de près d'un milliard d'électeurs. 970 millions, très exactement, 970 millions d'Indiens appelés aux urnes à partir de vendredi pour une durée de 6 semaines pour élire leur assemblée. Des résultats de ce scrutin dépendra la réélection ou non de Narendra Modi pour un 3e mandat. Depuis son arrivée au pouvoir il y a 10 ans, le Premier ministre nationaliste hindou est encore très populaire. L'Inde a accru son influence diplomatique et son poids économique, mais il a imposé un régime autoritaire dont la société civile indienne est l'une des premières victimes, d'où l'inquiétude pour l'état de santé de la plus grande démocratie du monde. Valérie Crova avec les moyens techniques de Fabien Gosset.
Le 2 février dernier, Harsh Mandor a vu débarquer chez lui des agents du CBI indien, l'équivalent du FBI américain. Ce n'est pas la première fois, ironise cet homme de 68 ans qui a consacré sa vie à la lutte contre le communautarisme.
Je suis accusé d'incitation à la haine, de blanchiment d'argent, d'irrégularité financière. En Inde, les hindous croient en une seconde vie. Je pourrais donc passer toute cette vie et la suivante en prison si j'étais coupable de tous ces crimes.
Ce disciple de Gandhi dénonce le climat de peur instauré par Narendra Modi qui souffle sur les braises du nationalisme hindou.
Il y a une tentative de faire taire la dissidence, comme le font les dirigeants autoritaires dans le monde entier. Sauf qu'ici, c'est associé à une idéologie visant à transformer l'Inde en une Inde très différente du Mahatma Gandhi, lutte qui est née de l'égalité des droits.
La chasse aux sorcières est telle qu'Arshmandor a de plus en plus de mal à publier ses ses articles en Inde, ce qui ne le décourage pas.
Je ne veux pas d'un pays marqué par l'inégalité, la peur et la haine. Je veux un pays juste et bienveillant. C'est vraiment une bataille pour laquelle il faut être prêt à aller en prison et même à donner sa vie.
Son temps, il l'emploie actuellement à l'écriture d'un livre sur la montée du nazisme en Allemagne.
Valérie Krova. Un des sommets de la tragédie lyrique pour la première fois à l'Opéra Garnier à Paris. Médée, l'unique opéra baroque de Marc-Antoine Charpentier, créé en 1693, l'œuvre est tombée dans l'oubli avant d'être redécouverte dans les années 70 par William Christie et les Arts Florissants. Et c'est justement le chef anglais qui est dans la fosse à Garnier. Cet opéra retrouve une nouvelle jeunesse grâce à Léa Desandré. Elle incarne Médée dans une mise en scène Stéphane Capron très audacieuse de ce drame de l'amour et de la jalousie.
David McVicar, le metteur en scène, a placé l'action de cet opéra pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'antichambre du ministère de la Guerre à Londres. Il fait même entrer sur scène un avion de chasse. Les personnages masculins sont des militaires, le roi Créon est l'incarnation du général de Gaulle et dans cet univers surgit Médée, un rôle sur mesure pour Léa Desandré.
Je pense que c'est une œuvre qui méritait de revenir au répertoire de l'opéra et qui montre toutes les facettes de ce dont on attend d'un opéra. Le drame, la qualité de la musique, de l'harmonie, la qualité du texte. Le texte est sublimissime. Même moi-même, quand on est en plein spectacle, j'en reviens pas. À chaque fois, je me dis, mais waouh, trop fort, quoi. Franchement, c'est incroyablement inspiré et inspirant.
La mezzo-soprano est incroyable dans ce personnage de Médée, cette femme qui se rebelle.
Il y a une métamorphose qui s'opère dans la pièce. En fait, Médée était encore une femme avec un penchant magicien, et là c'est le loup-garou qui se métamorphose un soir de pleine lune. C'est un peu une forme de transe. Tout est au service du personnage. Je suis sur un petit nuage, quoi. Médée, elle peut s'envoler, je me suis envolée avec elle.
Léa Desandré ensorcelle littéralement le plateau et le public. Elle confirme qu'elle est l'une des plus grandes mezzo-soprano de la scène lyrique internationale.
Médée à l'Opéra Garnier jusqu'au 11 mai et ensuite visible sur Arte Concert et diffusé sur France Musique le 1er juin.
Merci Laurence Thomas. À suivre, Maxence Lambrecq, Dominique Seux, Sonia De Villers.